Europe Midi, Thierry Dagiral.
Il est midi et demi, soyez les bienvenus, c'est Europe Midi, 30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce dernier jour de l'année. Quel dispositif de sécurité en France pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre? Un réveillon masqué, des fermetures d'établissements à 2h du matin. Quelles seront les amendes? On a beaucoup de questions à poser à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, et l'invité de cette édition dans un instant. 20h ce soir, les derniers vœux du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un président pas encore tout à fait candidat, confronté à une reprise épidémique. Que peut-il dire? Nos dernières informations et l'analyse de Bernard Salanès de l'Institut Elab vers 1h20. Que peut-on vous souhaiter pour 2022? Quelles sont vos attentes pour cette nouvelle année? Il y a ceux qui ont tout quitté pour changer de métier. Beaucoup de citadins deviennent boulangers. Une école a été créée justement pour cela dans les Alpes d'Haute-Provence. Son créateur sera avec nous vers 1h10. Mais d'abord, la tendance météo de votre vendredi, Marlène Duré.
C'est un temps calme et doux qui s'annonce, Thierry, avec du soleil et qui s'impose sur une grande partie du pays aujourd'hui et demain. Près de la Manche, le ciel sera un peu plus variable, voire nuageux. C'est aussi le retour des grisailles côtières en Méditerranée.
Le détail météo, ce sera juste avant 13h.
Europe 1.
Bonne année, ça y est, il est 12 heures de plus aux îles Samoa. On est au beau milieu de l'Océanie, à 16 000 km de Paris. Premier territoire à passer en 2022, dernière seconde de 2021 avec Télani Salamoa. Elle est francophone et tient un café.
Oh, j'entends les feux d'artifice qui commencent. Bonne année des îles Samoa. J'ai une sœur qui habite à Hawaï et puis bon, on fête deux fois, on fête une fois ici. Elle nous appelle et puis après, en fait, une fois avec elle, c'est nous qui l'appelons. On fête tout deux fois. On fête Noël deux fois, on fête le Nouvel An deux fois, les anniversaires, toujours les premiers. C'est sympa.
Voilà, à propos recueilli par Victor Pourchet. En France, le réveillon sera masqué. En tout, 49 départements en métropole sont concernés. Dernière en date, les Bouches-du-Rhône à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 janvier. À Paris, masque obligatoire en extérieur depuis ce matin. Zoé Pallier, vous étiez dans le quartier Châtelet ce matin et vous avez rencontré des Franciliens résignés, on va dire. Hein.
Oui, c'est ça. En tout cas, la majorité des Parisiens que j'ai rencontrés ce matin ont déjà repris leurs réflexes. La plupart gardent le masque sur le visage en sortant du métro, à part quelques étourdis comme Asmar.
Ma mère avait m'envoyé un message ce matin, mais sinon j'étais même pas au courant, je m'étais pas renseigné. Là, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Le masque c'est embêtant tout court, mais dans la rue encore plus. Après, les cas du Covid, ils augmentent tous les jours. Donc on écoute. Hein.
Et justement, dans ce contexte de flambée épidémique, certains sont finalement rassurés par cette nouvelle obligation.
C'est vrai que bon, c'est la buée, mais moi je dis que c'est un mal pour un bien.
Moi je ne l'ai jamais quitté. J'ai mis des masques chirurgicaux. Ben, maintenant je remets les masques FFP2.
Et puis il y a ceux qui obéissent un peu à contre-cœur, se posent des questions notamment sur l'utilité de la mesure.
Quand on est en extérieur où on croise personne, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour moi, quoi.
Une fois de plus, le gouvernement donne l'impression de faire quelque chose, mais c'est tout, quoi.
Voilà, et quelques-uns me l'ont quand même confié, Thierry, hein, ils garderont le masque sous le menton dans les rues les moins fréquentées et le remettront seulement s'ils voient un policier, par exemple.
Merci Zoé Pallier pour Europe 1. Justement, bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Sur ce port du masque obligatoire en extérieur, il y aura justement des sanctions possibles, des amendes de combien?
Oui, il y a des sanctions possibles, mais avant de commencer à parler de sanctions en ce 31 décembre, moi je veux observer d'abord que les Français sont très respectueux de ces mesures. À chaque fois qu'il y a eu des mesures prises, on nous a dit « oh là là, les Français vont protester », etc. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que chacun a compris que la pandémie circulait, qu'il y avait des variants, et notamment après Delta, Omicron, qu'ils étaient très contagieux et qu'il fallait donc nous en protéger. Donc l'idée de se dire qu'on doit mettre le masque quand on est en extérieur, dans une foule, etc., c'est simplement une volonté de protection avant d'être une volonté de sanction de quoi que ce soit.
Oui, mais ce soir, il y a amende possible.
Bien sûr, comme pour tous les autres jours, il faut faire attention. Le virus ne prend pas de vacances, on le sait, mais je crois que les Français le savent bien.
Les effectifs ce soir, combien de forces de l'ordre mobilisées sur le territoire?
Écoutez, ce soir, on aura plus de 130 000 effectifs mobilisés pour nous protéger en France. Si j'inclus les militaires de l'opération Sentinelle, Il y a à peu près 95 000 policiers et gendarmes, 32 000 sapeurs-pompiers également, et puis un peu plus de 3 000 militaires de Sentinelle. L'idée d'abord, c'est d'assurer une vigilance face au risque terroriste, je veux dire qu'il n'a pas disparu, hélas. Ensuite, de prévenir des actes de délinquance et de violence urbaine. On sait bien que chaque 31, il y a un risque. Et puis, bien sûr, les contrôles routiers, notamment en matière d'alcoolémie. J'ai vu que vous diffusiez une campagne avec Stéphane Bern qui incitait à faire en sorte que quand on a bu, on ne prend pas le volant. Je crois que c'est souhaitable. Et puis, bien sûr, les mesures de lutte contre l'épidémie, notamment pas de feu d'artifice, port du masque qu'on vient d'évoquer, etc.
Restez avec nous, Marlène Schiappa. On va aller en Alsace, couvre-feu à Strasbourg pour les adolescents. Il s'agit bien sûr d'éviter là les dégradations de mobilier urbain et les feux de voitures. Hélas, on le sait, un traditionnel la nuit du 31. Reportage, Mélina Fachin.
Nina, Max, Sylvain et leurs amis ont 15 ans. Ils n'auront donc pas le droit de sortir de chez eux de 22h à 6h du matin, sauf s'ils sont accompagnés par l'un de leurs parents, une mesure qu'ils jugent injuste et inutile.
Déjà l'année dernière, on ne pouvait pas sortir la nuit à Nouvel An. C'est vraiment, vraiment chiant.
Je pense que les gens déjà qui cassent des voitures, ils en ont un peu rien à foutre du couvre-feu. Et puis, c'est pas juste les jeunes de moins de 16 ans qui cassent des voitures, quoi.
Et je trouve que c'est un peu dommage que la punition, elle soit appliquée à tout le monde, alors que je pense qu'on pourrait juste un peu renforcer la sécurité dans les endroits où il y a le plus de bagnoles cassées, quoi.
La mesure va s'appliquer à Strasbourg et à 6 autres communes de l'agglomération, notamment à Bischheim. Le maire Les Républicains Jean-Louis Hurlet y est tout à fait favorable.
Les statistiques font apparaître que sur les années précédentes, la plupart des incivilités, des feux de poubelle, feux de voiture, etc., ont été commis par des jeunes de 12 à 16 ans. Je crois que nos concitoyens veulent aussi avoir la liberté qu'après le nouvel an, ils puissent partir dans une voiture qui roule encore.
Les contrevenants ne risqueront a priori pas d'amende, mais se feront ramener chez leurs parents par la police. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Marlène Schiappa en direct avec nous ce midi. Vigilance extrême à Strasbourg, dans l'Oise également. À Strasbourg, c'est la première fois que cela concerne les mineurs.
Oui, c'est vrai qu'il y a une vigilance et que les préfets, mais aussi bien évidemment les maires, sont fondés à prendre des mesures particulières. Moi, je serai par exemple tout à l'heure avec Sébastien Lecornu, qui est ministre et président du conseil départemental, dans l'heure. L'idée pour nous, ce sera de prévenir les débordements, par exemple sur la restriction de vente de carburant aux héritiers. Vous savez qu'il y a cette interdiction de vente d'artifice pour faire en sorte que les forces de l'ordre soient mobilisées vraiment sur les urgences et sur l'essentiel.
Plus généralement, Madame la Ministre, sur les couvre-feux, obligation pour les restaurants et bars de fermer à 2h du matin, là encore, il y aura des sanctions où les policiers vont juste faire de la pédagogie?
Non, mais là aussi, je ne veux pas commencer le 31 décembre par menacer de sanctions, mais évidemment, oui, il y a des sanctions qui sont prévues à chaque dispositif qui n'est pas respecté. Mais moi, je veux dire surtout que le gouvernement a tout fait pour faire en sorte que les restaurateurs puissent rester ouverts. Et je crois que c'est bien ça l'essentiel. Quand on regarde ce qui se passe dans beaucoup de pays européens, on a beaucoup de voisins européens qui sont en train de prendre des mesures plus dures, de fermeture, de confinement pour certains. Nous, c'est important pour nous que les restaurateurs, que je salue parce qu'ils vont travailler ce soir, ils sont déjà au travail pour beaucoup, puissent rester ouverts et que chacun puisse profiter d'un petit moment quand même festif pour se réveiller.
Restez encore un peu avec nous. En tout cas, depuis ce matin, c'est la queue hein, devant les laboratoires, devant les pharmacies. Se faire tester, bien sûr, avant de réveillonner. Maximilien Carlier, vous l'avez constaté à Lille.
Oui, exactement, Thierry, à Oisem, dans un quartier lillois, il y a une longue file d'attente dans ce laboratoire Biopath.
Les personnes qui ont fait la pré-demande, vous pouvez avancer, s'il vous plaît.
À l'accueil, Angélique, formulaire de dépistage dans les mains, elle est débordée.
Ça n'arrête pas, du matin au soir, ça n'arrête pas du tout. C'est inquiétant quand même, il y a beaucoup de PCR. Après, c'est les fêtes aussi, donc je pense que c'est ça. Ils veulent être sécurisés.
Pour un réveillon de la Saint-Sylvestre, tranquille, c'est le cas de François, triple vacciné, habitué désormais à se faire triturer les narines.
Sur la dernière quinzaine, ça doit être la quatrième fois, je crois. Bah parce qu'on croisait des personnes de la famille, des personnes âgées, fragiles. On ne veut pas mettre ses proches en danger.
Car il y a une flambée des contaminations. Dans les Hauts-de-France, le taux de positivité au Covid est de 20%. Une personne sur cinq qui se fait tester a le Covid. Nicolas Châtelain, gérant des laboratoires Biopath dans la région.
On avait fait 25 000 tests hier soir à minuit sur l'ensemble de nos laboratoires Biopath sur les Hauts-de-France. Par rapport à une semaine classique, l'activité a augmenté de 30 à 40%. c'est énorme.
Une ruée vers les centres de dépistage et les pharmacies qui n'est pas terminée selon ce biologiste qui s'attend à ce que les contaminations augmentent encore après la rentrée scolaire.
Maximilien Carlier, correspondant Europe 1 à Lille, 206 243 nouveaux cas positifs en 24 heures. Marlène Schiappa, vous l'avez entendu et vous l'avez dit, c'est la mobilisation générale du gouvernement, notamment avec ce futur pass vaccinal. Plusieurs élus de votre majorité qui vont voter ce texte sont menacés, agressés. Comment les protéger ?
Oui, d'abord sur la question des tests, moi j'appelle chaque auditeur et auditrice d'Europe 1 qui va faire la fête ou qui va retrouver des amis ou sa famille ce soir à se faire tester. Il y a des autotests en pharmacie, moi j'ai fait le mien comme beaucoup de gens ce matin, c'est très important. En ce qui concerne les élus, évidemment, la démocratie ne peut pas supporter de menaces de mort. Et j'ai observé qu'il y avait des menaces de violence, des faits d'ailleurs de violence également, je pense à ce garage qui a été incendié. On en supporte tous les jours sur les réseaux sociaux, moi également en tant que ministre. J'ai vu également que des journalistes étaient menacés. Dans une démocratie, on ne peut pas menacer des responsables politiques élus, on ne peut pas menacer des journalistes, ce n'est pas possible. Le désaccord et le débat ont le droit évidemment d'exister, mais ils doivent exister dans le respect de chacun. Et donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a pris des directives pour faire en sorte au préfet que l'on puisse protéger les élus, qu'il puisse y avoir des plaintes qui soient prises et qu'elles soient instruites. Et je sais que le président de l'Assemblée nationale est extrêmement mobilisé, Richard Ferrand, sur ce sujet. J'adresse ici mon soutien à tout le monde, qu'il soit élu, journaliste ou citoyen engagé, et qu'il reçoive ces menaces. C'est évidemment inacceptable.
Merci à vous. Merci Marlène Schiappa, ce midi sur Europe 1 à quelques heures, à quelques heures du réveillon. Je vous écoute, pardonnez-moi. Merci à vous également. Vous serez, vous l'avez dit, dans l'heure cet après-midi auprès des forces de l'ordre. Grand merci à vous. Allez, restez avec nous dans un instant. Les vœux d'un président bientôt candidat ce soir à 20h. Que peut-il dire ? Analyse de Bernard Salanès de l'Institut Elab. À suivre. Bon appétit. Merci d'être avec nous.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Bientôt une heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Ce soir, 20h, les traditionnels vœux du président. Ce sera en direct sur Europe 1, édition spéciale autour de Pierre de Villeneuve. Bonjour Victor Chabert.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Alors ce soir, il ne faut pas s'attendre à des annonces. Néanmoins, il y a des enjeux pour cette allocution.
Hein. Oui, c'est un moment solennel. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron va dresser la liste des défis du pays pour 2022, dont la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui débute demain et la gestion de la pandémie. Même s'il y a un rebond très fort, plus de 200 000 contaminations par jour, l'enjeu est de montrer que cette année n'a pas été totalement paralysée par le Covid, que l'exécutif a agi. Emmanuel Macron va sans doute détailler les résultats économiques et se projeter. On regardera également les symboles, la mise en scène. Rien n'a fuité sur ce point, mais le président de la République soigne toujours les détails.
Victor, regardons les archives. Comment les présidents qui allaient se représenter à la présidentielle ont abordé ces traditionnels vœux ?
Eh bien, tout d'abord, aucun n'était candidat déclaré en décembre. Ouais. Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle. Il y a deux stratégies. Soit ne pas parler de l'échéance présidentielle, mais faire passer des messages comme Valéry Giscard d'Estaing en 1980 face à la gauche qui n'a jamais gouverné.
Il faut peu de choses pour détruire l'image d'une nation. Faisons le nécessaire pour que la France continue d'être un grand pays.
Soit en parler pour dire qu'on va gouverner jusqu'au bout, comme Nicolas Sarkozy en 2011, président qui a lui aussi connu une crise majeure, celle de 2008.
Dans 5 mois, nous avons une élection présidentielle. Et au moment venu, vous ferez votre choix. Mais d'ici là, je dois continuer à agir.
De quoi sans doute inspirer Emmanuel Macron ce soir.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Bonjour Bernard Salanès.
Bonjour Thierry Dagiral.
Président de l'Institut Elab, bien sûr. L'exercice de ce soir est relativement rodé, mais ce soir, on est là en pleine reprise épidémique.
Oui, bien sûr, l'exercice est rodé. Parfois, certains disent d'ailleurs qu'il est, somme toute, assez convenu. Et finalement, d'ailleurs, dans l'opinion, on voit bien que les Français n'en retiennent souvent pas grand-chose. Alors, dans le côté classique, il faudra pour le président de la République rassurer. Rassurer, ça veut dire montrer que l'épidémie est sous contrôle, ce qui sera difficile. Expliquer notamment la cohérence des mesures, alors qu'un débat se rouvre sur celle-ci. Et puis, rassembler au moment où la société apparaît extrêmement divisée. J'allais dire, ce sont des figures classiques. Mais, vous l'avez dit, ce qui sera difficile, difficile, surtout cette année pour le président de la République, c'est qu'en général, quand on fait des vœux, on veut se projeter dans l'année qui vient. Et aujourd'hui, cette projection, eh bien, elle est tout simplement quasiment impossible. Individuellement, d'ailleurs, pour chacun d'entre nous, comme collectivement. Comment se projeter alors qu'on ne sait pas de quoi l'avenir Covid sera fait dans un mois ou deux? En 2021, il avait dit « l'espoir est là ». En 2022, il aura du mal dans une société qui est extrêmement fatiguée, extrêmement lasse, extrêmement inquiète et qui ne voit pas, comme on dit, le bout du tunnel.
Bernard Sananès, un président, on l'a dit, un bientôt candidat. Cette pandémie, finalement, favorise l'exécutif. Les oppositions, on le sent bien, ont du mal à se faire entendre.
Oui, en tout cas, il n'y a pas le sentiment dans l'opinion qu'il y a une alternative sanitaire. Il y a des critiques, elles s'expriment, elles rassemblent à peu près un Français sur trois. La cote de confiance du président de la République est assez stable sur l'année. Elle est d'ailleurs plus importante quand on pose la question sur la capacité à gérer la crise sanitaire. 44% des Français lui font confiance. Donc, il y a des oppositions, il y a des débats, ils s'expriment et parfois violemment. On l'a évoqué, vous l'avez évoqué en début de ce journal. Mais il n'y a pas le sentiment qu'il y a une alternative. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu ce soir aussi pour Emmanuel Macron et pour les prochaines semaines, c'est de montrer que finalement, le en même temps, c'est-à-dire priorité à la santé tout en préservant l'économie, tout en préservant l'école, que ce en même temps n'était peut-être pas la meilleure solution, mais que c'était la moins mauvaise solution possible. Jusqu'à présent, ça a à peu près fonctionné. On ne sait pas très honnêtement de quoi sera fait demain, au moment où peut-être la société peut commencer à craquer et surtout à douter de l'efficacité de certaines de ces mesures.
Mais quand même, ça va être une campagne présidentielle particulière, incertaine avec cette pandémie, hein.
Oui, une campagne particulière. D'abord, soyons humbles, nous n'avons jamais connu une campagne présidentielle sous une pandémie, et donc ça peut avoir beaucoup d'impact. Le premier de ces impacts, il est, j'allais dire, thématique. Comment parler d'autre chose que le Covid, au moins pendant les prochaines semaines? Vous l'évoquiez tout à l'heure, la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, c'est sans doute très important, même si c'est souvent un peu loin de l'intérêt des Français. Comment ce soir parler longuement de la présidence française de l'Union européenne, alors que les Français alternent entre test et troisième dose, voire demain quatrième dose? Donc c'est compliqué de parler d'autre chose. C'est compliqué, encore une fois, quand vous êtes candidat à un second mandat et que l'enjeu, c'est toujours un second mandat pour quoi faire, d'essayer de se projeter, de projeter l'action politique au-delà de ces quelques semaines de campagne. Donc oui, d'un exercice traditionnellement complexe, cette année, la barre est encore plus haute.
Bernard Sananès, président de l'Institut Elab, grand merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
À suivre dans Europe Midi, vos souhaits pour 2022. Et si c'était de tout quitter pour devenir boulanger? Explication dans un instant, les mains dans le pétrin. Ne quittez pas, on revient.
Europe Midi,
Thierry Dagiral. 1h-10, suite et fin de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année? Quels sont vos vœux pour 2022? Micro tendu, réponse.
Juste pas de confinement et puis une meilleure année que l'année dernière au niveau de ça.
Pouvoir faire la fête, retrouver des amis, la famille, pouvoir se retrouver tout simplement.
Les voyages parce que là ça fait 2 ans qu'on reporte notre voyage à Londres. Donc là on l'a reporté en avril prochain, 2022, on espère que ça passera.
Le travail, la famille, l'argent, comme toutes les années en fait.
2022, moi c'est le bac et je vais aussi passer des concours pour entrer dans des écoles de commerce. Donc j'espère que ça va aboutir. Donc j'ai pris la bonne résolution de plus travailler.
Des projets d'installation avec mon copain, des projets de mariage.
Continuer à aménager notre maison qu'on vient d'acheter. Voilà, ça nous prendra bien toute l'année encore, donc tout va bien.
Voilà, et on vous souhaite bien sûr le meilleur. Il y a bien sûr l'envie aussi de changer de vie également, tout quitter pour changer de métier. Bonjour Thomas Teffry, chambellan.
Bonjour.
Alors vous avez créé une école dans les Alpes de Haute-Provence pour devenir boulanger. On est près de Sisteron. Qui vous accueillez?
Alors on accueille essentiellement des adultes en reconversion, qui sont généralement des adultes qui ont entre 30 et 50 ans, qui ont souvent un très bon bagage scolaire ou universitaire, qui ont des bonnes expériences professionnelles. Donc on va dire qu'on a des professions de type ingénieur, banquier, graphiste, donc des gens qui, dans la société classique, ont des boulots relativement bien reconnus, mais qui s'ennuient dans leur travail et qui sont en perte de sens et qui cherchent finalement à s'investir dans une économie réelle et à retrouver du plaisir et du sens dans leur travail.
La tendance, elle est là, retrouver du sens dans ce que l'on fait finalement, c'est ça?
Tout à fait. Et c'est vrai que le pain est un domaine qui attire beaucoup pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le pain est hautement symbolique en France. Et d'autre part, parce que ça reste un artisanat qui est viable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des gens aussi assez sensés qui veulent changer de vie, mais qui ont souvent aussi des exigences économiques, qui ont des familles à faire vivre, qui vivent comme au 21e siècle et non pas comme au 19e. Et donc, qui ont envie de se réorienter tout en ayant la capacité finalement aussi à vivre de leur travail. Et c'est vrai que le pain aujourd'hui permet cette reconversion quand c'est bien fait.
Voilà. Vous-même, Thomas, vous avez 46 ans. Vous-même, vous avez changé de vie. Vous étiez prof de biologie avant, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. J'ai été fonctionnaire donc à l'Éducation nationale. J'ai quitté l'Éducation nationale il y a une vingtaine d'années maintenant, pour faire poursuivre finalement ce qui était une passion pour moi, qui était la panification. Et donc je travaille depuis sur ce secteur-là du pain bio et du pain au levain depuis une vingtaine d'années, avec plusieurs entreprises, oui, tout à fait.
Bravo à vous, belle année à vous, Thomas Teffry, chambellan créateur de l'École internationale de boulangerie. C'est à Noyers-sur-Jabron dans les Alpes de Haute-Provence. Grand merci à vous, bonne année à vous, avec un peu d'avance.
Merci beaucoup, bonne année.
Allez, malgré Omicron et cette cinquième vague, vous allez sans doute danser ce soir, c'est possible, même seul. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Alors, quelle sera la playlist de ce réveillon?
Thierry, je vous vois déjà la fesse joyeuse, mais on va
la
y aller...
La fesse joyeuse.
La fesse joyeuse. Oui. On va y aller crescendo avec l'une des chansons les plus écoutées de l'année en France.
Allez. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film, le début était...
Vous avez reconnu,
Clara Luciani, j'adore.
Clara Luciani, le reste. Et puis on va continuer avec ce duo qui a cartonné, The Weeknd et Ariana Grande, Save Your Tears.
Les amis de la régie sont en transe, là.
Quand la soirée sera déjà bien entamée.
Ouais.
Après le plat principal, à mon avis, on peut partir sur un petit pas de disco. Vous voyez de qui je vais parler, Thierry ?
Je vous suis. Julie.
Juliette Armanet. Toute une éducation
c'est bien,
à refaire.
Non,
hein.
Mais...
Et enfin, en
son
dernier titre...
Son album vient de sortir, c'est bien ça ?
Tout à fait,
vu,
à l'automne,
quand même.
Ouais. Dernier titre qu'on peut diffuser en boucle,
oui.
Le tube du DJ français Koongs, l'un des artistes les plus chazamés au monde, Shazam.
Ouais.
Vous connaissez, c'est
bien
l'application de musique, de reconnaissance de musique.
Tout à fait.
Never going home. À un moment, il faudra quand même rentrer hein, chez soi. Voilà, après la soirée.
À 2h du matin. Marie Jiquel du service culture. Bon réveillon à vous, Marie.
Merci.